répond parfaitement aux moindres besoins que nous pouvons avoir, parce que Jésus est tout suffisant pour répondre à chacun de nos besoins, quel qu'il soit. Il n'y en a pas un qui passe à côté des yeux de Dieu. Dieu voit tout et sait tout, et donc il connaît les moindres recoins de nos besoins. C'est important. Alors, nous allons voir si le PowerPoint, vous l'avez, pas encore. Oui. Jésus est notre meilleur ami qui veut répondre à nos besoins. Il est notre meilleur ami. Il y a un chant qui dit « Quel ami fidèle et tendre !» Un ami parfait qui ne nous juge pas, qui n'est pas toujours entre... Les êtres humains, c'est étonnant. Quoi que nous disions, ou même si on ne dit rien, ils ont une petite tendance... La chair a cette tendance de juger l'autre. Et ça, c'est clair. Et nous, par anthropomorphisme, on pense que Dieu est comme nous, et qu'il est en train de juger les gens et de nous juger. Alors que Jésus n'est pas venu premièrement pour nous juger, il est venu pour nous sauver. C'était ça son but. C'est pas, s'il voulait nous juger, il y a longtemps qu'il aurait détruit la terre et tout ce qui s'y trouve. Mais au contraire, c'est un temps de grâce. Nous sommes dans la grâce de Dieu et il cherche à sauver par tous les moyens. Mais ça ne diminue pas sa sainteté et ça ne diminue pas sa justice. La justice de Dieu ne sera pas jamais diminuée par les lois des hommes qui changent à toutes les législations, etc. Non. Connaître Jésus, c'est évident, c'est une priorité pour nous. Si nous voulons que notre vie puisse avoir un impact, puisse être vraiment avoir quelque chose de formidable, il faut avoir une vie spirituelle consacrée à Jésus. Jésus, il est celui qui pourvoit à nos besoins, mais il faut avoir une relation avec lui, parce que ce serait trop facile d'avoir le jackpot Jésus. Allez, hop, je te mets 1 euro et tu me donnes ce que j'ai envie. Mais Dieu n'est pas dans un fonctionnement comme ça. C'est un Dieu de relation. Un Dieu de relation, ce n'est pas un Dieu de distribution. D'accord ? Je vous distribue tous les cadeaux que vous voulez. C'est Saint-Nicolas tous les jours avec moi. Allez, hop. Non, c'est pas un jackpot, c'est pas le Dieu Saint-Nicolas, c'est pas le distributeur qui se trouve dans quelques magasins ou dans quelques écoles ou quoi que ce soit. Jésus est tout suffisant pour répondre à tous nos besoins, mais la première chose, c'est qu'il veut être en relation avec nous. Et dans cette mesure-là, nous avons l'assurance qu'il répondra à tous nos besoins. On ne va pas seulement faire appel à lui quand on a des besoins, on va être en relation avec lui, quels que soient nos besoins. Et ça, c'est important. Je peux mettre la prochaine diapositive, s'il te plaît. Connaître Jésus, c'est une priorité. Oui. Et grandir dans la connaissance de Jésus, c'est un défi continuel du chrétien. Grandir dans la connaissance de Jésus. Il nous faut grandir dans la connaissance de Jésus. C'est important. Si tu veux, ici, on a une image caractéristique. Il est le lion de la tribu de Judas. Ah, ça, c'est quand même important. Tu peux mettre la dia suivante, si tu veux bien. Voilà, priorité, ensuite. Si tu peux passer à la dia suivante. Pas moyen. Sa divine puissance, ça c'est Pierre qui nous dit ça, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Là on pourrait peut-être aller voir dans vos Bibles, 2 Pierre chapitre, oui, c'est grandement, vous pouvez toujours vérifier dans vos Bibles si c'est bien écrit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Il nous a fait connaître. Dieu nous a fait connaître son Fils extraordinaire. Et nous avons tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété au travers d'une relation vivante avec Jésus. Tout ce que nous avons besoin, nous l'avons. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Au travers des noms de Jésus. Dans la Bible, les noms avaient plus de signification qu'ils n'en ont aujourd'hui. Le nom était caractéristique, caractérisait la personne qui le portait. Et je crois que c'est important. Un nom permettait d'indiquer trois éléments spécifiques concernant une personne. Des éléments très importants. La première chose, le but, ce pourquoi Jésus est venu. On va le voir. Les noms donnés à Jésus, eh bien, il y a trois caractéristiques. Le but de sa venue, la position qu'il occupe, qui il est réellement à la droite du Père, qui il est, c'est important, et ces noms-là indiquent la position et la destinée, son impact dans le monde. C'est important, c'est très important. Dia suivante, tu veux ? Et on va voir seulement un verset biblique qui va nous caractériser cela. L'ange dit au berger dans Luc 2, verset 11, « Cette nuit dans la ville de David est né pour vous un sauveur qui est le Christ le Seigneur. » Voilà une rafale de trois mots à propos de Jésus. Hein. Sauveur, Christ Seigneur, sauveur. Cela révèle le but de Jésus. Pourquoi est-il venu sur la terre ? Pour sauver, pour nous sauver. Sauveur, hein. Salut de Dieu. Christ, cela révèle la destinée de Jésus. Le Messie, c'est celui qui est oint, c'est le roi, le sacrificateur, le prophète, tous ses ministères. Hein, il est venu en tant que roi, d'accord ? Il est le roi des rois. Il est celui qui est au-dessus de tout, celui qui est digne de recevoir notre adoration, la gloire. Il est le sacrificateur au ciel, il est le souverain sacrificateur qui prie jour après jour. Il a offert son corps et son sang. Hein. Il est à la fois le sacrifice et le sacrificateur qui offre le sacrifice. Extraordinaire, hein ? C'est lui le sacrifice et en même temps il est le sacrificateur. Et qu'est-ce qu'il fait à la droite du Père ? Un des rôles des sacrificateurs dans l'Ancien Testament, c'est d'intercéder pour le peuple. Hein, vous pouvez voir par exemple Samuel. Non, on ne va pas trop vite. Et donc il est prophète. Et Deutéronome chapitre 18 nous parle de ce qu'il est prophète, hein, et il a prophétisé à beaucoup d'occasions. Il est aussi le Seigneur, l'Adonai. Il révèle sa position, la position de Jésus. Il est au-dessus de tout. Il est au centre de tout, mais il est surtout au-dessus de toute chose. Il domine au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, des princes, au-dessus de toute chose, de tout ce qui peut être nommé dans les cieux ou sur la terre ou sous la terre. Il domine au-dessus de tout. Il a toujours existé, il est éternel. Michée 5, chapitre 5, verset 2, nous dit que les origines de Jésus remontent à l'Antiquité, au jour d'autrefois. Hein, ces origines sont éternelles. Jean chapitre 8, versets 57 et 58, Jean dit qu'il est avant qu'Abraham ne fût. Jésus existe. Il préexiste avant toute chose, il est avant l'histoire. D'accord ? Il est Dieu, il est à la droite du Père. Et il était déjà à la droite du Père avant de venir sur la terre. Et il est venu s'incarner en Jésus-Christ, prendre la place d'un homme, afin de mourir pour nous. Mais il était déjà dans la forme de Dieu de toute éternité. Et il reviendra aussi. Donc tu peux mettre la dia suivante si tu veux bien. Il a créé l'univers. Dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Colossiens chapitre 1, verset 16 disent « Car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. » Ce qui est visible et ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité, pouvoir, Dieu a tout créé par lui et pour lui. Donc Dieu a tout, le Père a tout créé par Jésus, par le Fils et pour le Fils. Extraordinaire. Et il a exercé aussi un ministère auprès des gens en les guérissant, en les libérant des puissances ténébreuses, en les sauvant de leurs péchés, en les instruisant. Il a formé des disciples et il les a envoyés apporter une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut. En fait, il répond à tous les besoins de l'être humain afin que chacun puisse être des témoins de la bonne nouvelle de Dieu, de la bonté de Dieu, et la manifeste aux nations. C'est le but de Dieu, au travers du ministère de Jésus, nous sauver et pourvoir à nos besoins et manifester la gloire de Dieu autour de nous parce que nous sommes témoins de la puissance de Dieu dans nos vies. Les noms de Jésus répondent à tous nos besoins. Les noms de Jésus répondent à tous nos besoins. Et pour le savoir, il est en train de régner à la droite de Dieu, bien sûr, il intercède pour nous, il maintient la cohésion de l'univers. Ce sont des choses que nous pouvons voir dans Colossiens chapitre 1er. Il attend avec impatience que nous soyons avec lui. Il revient bientôt nous chercher et nous régnerons avec lui pour l'éternité. Extraordinaire. Ça, c'est le plan rédempteur de Dieu qui va loin. Tu peux aller plus loin. Jésus veut répondre à tous nos besoins. Philippiens au chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. À tous vos besoins, il n'y en a pas un qui va être excepté aujourd'hui, non, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. C'est en lui que nous avons toutes les réponses à tous nos besoins. Il est notre tout. Celui qui veut vraiment nous satisfaire pleinement. Et nous trouvons cela dans ses noms. Alors, la première chose, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est, je suis celui qui était, je suis celui qui est, et je suis celui qui sera. » Il est le verbe « être », on l'a appelé l'Éternel, dans Exode 3, verset 14. « Dieu est celui qui est, son nom est suffisant. » À chaque étape du plan divin révélé dans la Bible et dans l'histoire, il est suffisant pour l'accomplissement de notre vie. Il est pleinement suffisant pour satisfaire pleinement notre vie. Tout est dans le nom de notre Dieu. À Moïse, Dieu dit « Je suis, je serai tout ce que tu auras besoin au moment où tu en auras besoin. Je serai tout ce que tu auras besoin au moment où tu en auras besoin. » Alors, il nous faut avoir la foi, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si vous demandez quelque chose à Dieu sans avoir la foi, il n'est pas possible de le recevoir. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, existe. Donc, la foi est indispensable. Il est tout ce dont nous avons besoin au travers de ses actions. Vous êtes dans le manque, vous manquez de quelque chose. Est-ce que vous manquez de quelque chose? Si vous manquez de quelque chose, il est l'Éternel qui pourvoit. Et on va le voir. Colossiens, on l'a déjà dit, Colossiens 2, verset 10, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous êtes malade, il est l'Éternel qui vous guérit. Psaume 103. Mais il y a beaucoup d'autres endroits, Ésaïe 53, versets 4 et 5, on voit qu'il est venu pour guérir nos maladies. Et le verset 5 notamment. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Si nous mettons notre foi dans cette parole, Dieu veut guérir. Il a la capacité, la puissance d'accomplir sa parole dans notre vie, de manifester la gloire de son nom dans notre corps, comme dans notre âme et notre esprit. Vous avez besoin d'être éclairé? Est-ce que vous avez besoin d'être éclairé? Quelquefois, nous passons des vallées obscures. Quand je suis dans la vallée obscure de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il m'éclaire. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il illumine. Ésaïe, chapitre 9, verset 1er, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Cette grande lumière, c'est Jésus, qui est venu dans le pays de Zabulon et Nephtali, en Galilée. Hein? Il est venu là pour apporter une parole de salut, pour éclairer les gens. Il est la lumière qui vient dans le monde et le monde n'a pas voulu le connaître, les ténèbres n'ont pas voulu le recevoir. Avez-vous besoin d'être libéré de toute oppression? Est-ce que vous avez besoin d'être libéré? Vous savez, dans ce pays, il y a beaucoup d'oppression. Est-ce que vous avez besoin d'être libéré de l'oppression de l'ennemi? L'ennemi veut détruire plusieurs personnes et le plus grand nombre possible des gens de nos familles. Et s'il trouve un accès favorable dans le cœur des gens, il y va, il n'y a pas de problème. Nous avons à créer une muraille de protection autour des gens que nous connaissons. C'est important parce que l'ennemi est là. Mais est-ce que vous avez besoin d'être libéré d'une oppression? Est-ce que vous ressentez l'oppression à certains moments? Il libère. Ésaïe 42, verset 7. « Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. » Il est puissant pour nous libérer de nos cachots, de nos prisons spirituelles, des prisons du mensonge, des prisons de la haine, des prisons du désarroi, du découragement, même de la médisance pour certains, ou des pensées impures pour certaines personnes. C'est des prisons, il y en a des milliers de prisons différentes, évidemment. Et il est capable de nous faire sortir de toutes les oppressions de l'ennemi, de la part de l'ennemi. Vos épaules sont-elles trop lourdement chargées par le poids des inquiétudes, des soucis, des incertitudes, des situations qui ne semblent pas trouver de solution? Quelquefois, nous sommes confrontés à des situations et il semblerait qu'il n'y a pas de solution en vue. On est comme sur un radeau au milieu de l'océan et on se dit, où est-ce qu'il y a une côte où on pourra accoster? Et on ne voit rien. On va se dire, peut-être qu'on va se noyer. Voilà, bon, il faut peut-être se préparer au pire. Et ce n'est pas toujours évident. Est-ce que vos épaules sont trop lourdement chargées par ces inquiétudes, ces situations? Alors, Jésus, j'ai une bonne nouvelle, Jésus porte des fardeaux. Jésus porte votre fardeau. Et ça, c'est important. Dans Ésaïe 53, verset 4, on voit ceci. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Hein? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de toutes vos inquiétudes, et il prendra soin de vous. C'est Pierre qui le dit. Hein? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon joug, il est léger. Fardeau aisé, parce que c'est ces instructions que nous avons besoin. Et il ne nous charge pas, comme les pharisiens chargeaient les juifs de ce temps-là, avec des petites lois qui leur compliquaient la vie, plutôt que de les libérer. Jésus est venu pour nous libérer, pour nous faciliter la vie, pas pour nous alourdir notre marche, mais prendre sur lui nos problèmes. Vous sentez-vous seul dans vos difficultés? Est-ce que vous vous sentez seul à certains moments? Je ne dis pas, peut-être aujourd'hui vous vous sentez accompagné, mais à certains moments, est-ce que vous ne sentez pas cette solitude peser sur vos vies? Alors, si vous vous sentez seul dans vos difficultés, rappelons-nous qu'il intercède. Et Ésaïe 53, verset 12, « Il a intercédé pour les coupables. » Et nous sommes tous des coupables, non? Il est aussi notre avocat auprès du Père. Il intercède en étant avocat. Voilà, le véritable intercesseur, c'est un avocat auprès du Père. Et il prend notre défense parce qu'il a payé de son sang pour nous libérer. Et c'est avec la faveur du sacrifice qu'il a réalisé qu'il peut s'approcher du Père. Et c'est au travers du sang que nous sommes délivrés. Du sang du juste, du sang de l'agneau. Alors, il est tout ce dont nous avons besoin au travers de ces noms. Vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas où aller. Il y a des situations où on se demande qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller. Il est l'Éternel votre berger. C'est lui qui va vous conduire. Laissez-vous conduire par le berger. Il est le bon berger. Ce n'est pas n'importe quel berger. Il ne va pas vous décevoir. Moi, je suis le bon berger, dit Jésus. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que vous êtes dans l'angoisse? À certains moments, est-ce que l'angoisse vous saisit par rapport à votre avenir, par rapport à votre passé? Des fois, le passé nous rattrape. Et nous avons les pensées de ce qui s'est produit, des choses désastreuses qui se sont passées dans nos vies. Est-ce que nous sommes dans l'angoisse? par rapport à l'avenir, par rapport au présent, par rapport à des situations difficiles. Il est l'Éternel, notre paix. Il est l'Éternel, notre paix. Romains, chapitre 5, dit ceci au verset 1er. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés, nous avons été rendus justes devant Dieu. Nous sommes rendus justes. N'essayez pas de vous rendre juste par vos actions. N'essayez pas de vous rendre juste par vous-même, par vos mérites, mais laissez-vous être justifié par le Christ. Et en ce sens-là, en étant justifié par la foi, nous avons la paix parce que nous ne devons pas fabriquer des œuvres pour être justifiés devant Dieu. Nous avons la paix, nous trouvons la paix parce que tout est accompli en Jésus-Christ. Tout a été accompli et je me repose dans le tout accompli de la croix. C'est pas pour ça que je ne dois plus rien faire. La foi va produire des œuvres, parce qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Mais je ne suis pas sauvé par les actions de ma foi. Je suis sauvé au travers du sacrifice de Jésus. Et je mets ma foi, ma confiance, tout simplement, en lui. Vous êtes désemparés devant la multitude des défis et des ennemis? Désemparés? Est-ce qu'il y a un désemparement dans vos vies? Il est Emmanuel. Donc on le voit dans Ésaïe chapitre 7 verset 14, la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Emmanuel, ça veut dire quoi? Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous, Dieu avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre vous? Si Dieu est avec toi, pourquoi as-tu des regards inquiets autour de toi? Ne pose pas des regards inquiets, Dieu est avec toi. Tu seras plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Il est avec toi, il est en toi aussi. Et il est pour toi, il n'est pas contre toi. Ça, c'est important de se rappeler. Et si Dieu est pour toi, il n'y a personne, aucun homme, que peut te faire un homme? Les hommes, ils peuvent te faire quoi si Dieu a décidé d'être avec toi? Parfois, l'angoisse vient quand vous pensez à tout ce que vous avez à faire ou face à l'impression d'être incompétent. Et ça arrive qu'on a l'impression de ne pas être à la hauteur de ce que nous devons faire, à la hauteur de ce que Dieu demande de nous. Et il est le prince de la paix, il est admirable, on l'appelle admirable, c'est dans Ésaïe 9, verset 5. Vous voyez, il y a beaucoup de noms dans Ésaïe, c'est incroyable. Rien que ce livre-là, on dit que c'est le cinquième évangile. Mais il y a énormément de noms de Jésus dans ce livre. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alors, si ce Dieu-là est avec moi, aucun problème. Il est admirable. Admirable se tient avec moi. Il est le conseiller, il me donne toute la sagesse dont j'ai besoin, toute l'intelligence spirituelle et le discernement spirituel, la connaissance, le conseil dont j'ai besoin. La connaissance, mais c'est extraordinaire. Il est le Dieu puissant, comment est-ce que j'aurais peur? Le Dieu puissant, il est le tout-puissant El Shaddai, gardien des portes d'Israël. Il garde les portes de ton cœur. Ah, il est dit aussi de garder ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui proviennent les sources de la vie. Alors c'est à toi aussi de serrer la parole de Dieu tout contre ton cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Mais le Seigneur est ton protecteur. Il est ton bouclier. Tu n'as pas à craindre la terreur. Tu n'as pas à craindre les flèches qui volent pendant la nuit. Tu n'as à craindre quoi que ce soit. Il est vraiment la poule qui te met sous ses ailes, qui te protège. N'arrive-t-il jamais que vous doutiez de l'exaucement de la prière? Est-ce que vous arrivez à douter de la prière à certains moments? Est-ce que vous priez à certains moments, vous dites « Ah, j'ai prié tellement et puis j'ai rien vu ». Ça arrive, ça, quelquefois, de ne pas voir l'exaucement de notre prière. Alors, il faut se rappeler que Jésus, c'est le bras de l'Éternel. la main de l'Éternel. Ésaïe 53, verset 1, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver. La main de l'Éternel, elle est agissante. Le bras de l'Éternel n'est pas trop court. Il est puissant pour nous sauver, pour nous relever, pour nous fortifier et nous encourager. Il est avec nous, si le bras de l'Éternel est avec nous. Vous savez, le bras de la chair ne peut rien faire. Le bras de la chair, c'est une aide momentanée. Le bras de la chair, il ne sera peut-être pas là quand on en aura vraiment besoin. Mais Dieu, il est avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça la grande différence. Il est fidèle, il a promis d'être avec nous. Et il ne dort, ni ne se repose, celui qui garde Israël. Il vous garde, il ne se repose pas, il n'a pas besoin de piquer un petit somme pour se reposer de temps en temps. Il peut nous garder 24 heures sur 24. Et ça, c'est important. Vous pensez que vous allez perdre pied? N'ayez pas peur, n'allez pas perdre pied. Parce qu'il est le sauveur puissant, Ésaïe 63, verset 1. Et il a le pouvoir de vous sauver. Manquez-vous parfois de sagesse et vous savez ce qu'il pourrait vous en coûter si vous manquez de sagesse dans vos façons de parler, dans vos façons d'agir. Ça peut vous coûter cher parce qu'il y en a qui n'attendent que ça pour vous fusiller, pour vous détruire, pour vous calomnier, pour vous descendre. Et il nous faut beaucoup de sagesse dans notre vie. Jésus, il avait une sagesse extraordinaire qui lui permettait de surmonter la manière, la stratégie que le diable utilisait pour le descendre, pour lui faire dire des choses qu'il ne fallait pas dire, pour lui faire faire des actions qu'il ne fallait pas. Et il a été fait pour nous sagesse. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Dieu a fait de lui sagesse. Il était fait pour nous sagesse. Ésaïe, chapitre 11, verset 10, nous dit ceci. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, esprit de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Si vous avez besoin de sagesse, ne doutez pas dans vos cœurs. Demandez à Dieu qui donnera libéralement la sagesse que vous avez besoin, c'est Jacques qui le dit. Et l'esprit de sagesse vient de Jésus. Il a été fait sagesse pour nous. Vous vous inquiétez pour votre mariage? Il est celui qui est fidèle. Et il donne cette capacité d'être fidèle. Il vous tiendra debout. Il vous gardera dans votre mariage. Ésaïe 11, verset 5. La fidélité, la ceinture de ses hanches, c'est vraiment la fidélité, c'est la parure de Jésus. C'est lui-même, il est fidèle. C'est son nom, il est fidèle. Alors celui qui est fidèle, s'il est avec vous, il vous gardera dans la fidélité. Vous n'arrivez pas à dompter votre caractère rebelle? Est-ce que vous n'arrivez pas à dompter ce caractère? Eh bien, il est la douceur. Jésus, il est la douceur. Et il veut nous imprégner notre caractère de sa douceur. Ésaïe 42, verset 3, il ne brisera pas le roseau broyé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Si vous croyez en lui, il va vraiment accomplir. Il est celui qui est doux et humble de cœur aussi. Et il mettra cette douceur à l'intérieur de vos vies. Et il va vous aider si vous êtes faible. Si vous êtes tellement faible, le Seigneur va donner une force. Il va vous donner la force dont vous avez besoin. Vous avez l'impression que votre vie vous échappe? Il y a des gens qui ont l'impression que leur vie leur échappe. Et il semblerait qu'ils ne sont plus maîtres de leur vie. Il est le Messie souverain. Il tient tout entre ses mains. Votre vie est dans les mains du Seigneur. Il n'y a rien à craindre. Il est souverain. Vous êtes dans la paume de ses mains. Matthieu 28, verset 18. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Rien à craindre. La vie semble avoir perdu ses couleurs. Il y en a qui sombrent dans une certaine monotonie. Il y a plus de couleurs dans leur vie. C'est comme les fleurs qui auraient manqué la lumière du soleil. Mettez des fleurs dans le noir, après quelques jours, ça ne va pas être beau. Hein. Et quelquefois, un chrétien triste est un triste chrétien, évidemment. Hein. Ça, c'est ce qu'on dit souvent. Mais si vous avez perdu des couleurs, revenez vers celui qui va vous embellir, qui va vous rendre des couleurs extraordinaires.
Et il fait des merveilles. Marc chapitre 6, verset 2. Et ces merveilles vont vous émerveiller, évidemment. Vous avez l'impression d'être indigne de Jésus. À certains moments, on se dit, je ne vais plus aller dans l'église parce que je suis trop sale et je ne suis pas aussi bien que les autres. Et il y a des gens qui arrêtent de venir dans les églises parce qu'ils se disent, oui, ils sont très bien, eux, ils sont bien, mais moi... Et ils acceptent le mensonge de l'adversaire. Ils quittent les églises parce qu'ils pensent qu'ils ne sont plus assez bons. On n'a pas besoin d'être bon avec Dieu. C'est Dieu qui est bon. Et nous recevons de sa bonté quand nous croyons en lui, quand nous venons à lui. Et le Seigneur fait son œuvre dans nos vies. Il est l'ami des pécheurs et des déshérités. Nous voyons ça dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, verset 2 à 10. Il est l'ami des pécheurs et des déshérités. N'ayez pas peur de vous approcher de lui, il vous aime tel que vous êtes. Vous avez l'impression d'être un vase complètement brisé. Quelquefois, c'est une réalité. L'église, c'est des vases qui étaient brisés, qui ont été reconstruits. Et forcément, il y en a encore beaucoup parmi nous qui sont des vases brisés. Et Dieu a cette volonté de reconstruire, de rétablir ce vase, de restaurer ce vase. Il restaure le vase de nos vies pour y mettre l'onction de son esprit dans ces vases. Un parfum, un baume, un nard de grand prix extraordinaire. Une fois que nous sommes restaurés, Dieu agit avec tellement de puissance, et pour nous restaurer, il agit avec puissance, bien sûr. Alors, vous ne savez pas comment gagner des âmes à Christ. Il y a des gens qui sont désespérés parce qu'ils se disent, oui, garde, je n'arrive pas à toucher les âmes, j'ai l'impression que ça ne marche pas avec moi. Il est le gagneur d'âmes. Alors, associez-vous avec le gagneur d'âmes dans Jean chapitre 3, avec... la Samaritaine, la femme samaritaine au puits, eh bien, il va gagner son cœur au salut. Et il est celui qui va nous aider à trouver les bonnes stratégies pour permettre que d'autres puissent venir à la connaissance du Christ. Il est le pain de vie dans Jean chapitre 6, parce que Jean nous donne énormément d'illustrations sur qui est Jésus et il lui donne beaucoup de noms. Il est le pain de vie. Sans lui, l'âme meurt de faim. Il est l'eau vive. L'eau vive dont nous avons besoin, qui désaltère l'âme jusque dans l'éternité. C'est dans le chapitre 7, verset 37. Il satisfait le cœur assoiffé. Il est le défenseur des veuves, au chapitre 6, verset 3 à 11. Il prend la défense d'une pécheresse. Il n'est pas venu pour condamner, mais pour être notre avocat, pour... nous défendre. Il est la lumière du monde. Au chapitre 9, la lumière du monde, il rend la vue aux aveugles. Si nous sommes aveugles spirituellement, venez à lui et recevez une vue nouvelle, la vue spirituelle. Il va éclairer nos vies. Il est le bon berger. Au chapitre 10, verset 1 à 16, il veille sur son troupeau avec sollicitude et donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie. Il est aussi la porte des brebis. Il nous préserve. Nous sommes dans la sécurité avec lui. Il est le prince de la vie et qui donne une vie à profusion à ceux qui en ont besoin. Il ressuscite Lazare. Il est la résurrection. Il est le roi. Au chapitre 12, il est le serviteur qui se met aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds. Il est le serviteur souffrant. Il est le consolateur. Et nous avons besoin de consolation, mais il nous réconforte. Il réconfortait ses disciples attristés la veille de la croix. Alors que lui pouvait s'angoisser de ce qui allait se produire, il réconfortait ses disciples par rapport à la perte qu'ils allaient subir. Mais il réconfortait parce qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et il n'y avait pas de crainte, surtout qu'il allait ressusciter, qu'il allait les revoir quelques jours plus tard. Il est le consolateur, on l'a vu. Il est le vrai cep par lequel nous pouvons porter du fruit pour la vie éternelle. Il est la source de tout fruit spirituel dans Jean chapitre 15, versets 1 à 16. Il est le donateur du Saint-Esprit qui le donne à celui qui demande.
Avec foi, il ne donnera pas un serpent, un scorpion à celui qui lui demande le Saint-Esprit. Et comme un bon père donne du pain à ses enfants, il donnera le meilleur, c'est-à-dire le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il est le grand intercesseur, il intercède pour l'Église, il intercède pour toi. Quand tu vis des passages obscurs, il prie pour toi. Il est le modèle qui souffre, le modèle de la souffrance. Armez-vous de la pensée de souffrir, disait Pierre. Et c'est vrai que dans notre vie, ça ne va pas être une vie si facile que cela. Il ne faut pas croire que parce que Dieu répond à nos besoins, qu'il n'y aura aucune souffrance sur la terre. Il y a beaucoup de souffrance. Celui qui veut vraiment être un vrai disciple sera comme son maître. On n'est pas mieux que le maître. Si le maître est passé par des difficultés, nous passerons par des difficultés. Si on a méprisé le roi, on vous méprisera. Ne vous mettez pas en tête qu'il y a moyen de passer au travers de cela sans que ça nous arrive. Oui, Dieu vous donnera la force de passer au travers des difficultés, mais il n'empêchera pas les difficultés de venir sur vos vies. Il est le sauveur crucifié. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Nous pouvons obéir jusqu'à la mort. Sois obéissant jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est dans une des lettres de l'Apocalypse. Il est le vainqueur de la mort. Et je n'ai plus à avoir peur de la mort. La mort n'a pas de puissance contre ceux qui sont en Jésus-Christ. La mort, c'est comme une porte. On passera au travers de la porte, nous serons dans l'éternité avec Jésus. Plus de peur par rapport à la mort. Pas de peur. La mort est vaincue. Il a vaincu la mort. Il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Je n'ai aucune peur à avoir de la mort. Où est ton aiguillon? Où est ta puissance, mort? Jésus l'a vaincu. Il est celui qui rétablit le pénitent. Il rétablit le pénitent. Au chapitre 21 de Jean, il accueille à nouveau Pierre. Pierre qui avait trois fois renié Jésus. Trois fois, il avait foiré. Il avait, avec tout ce qu'il connaissait, Pierre, où es-tu? Mais par trois fois, Jésus dit, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Deuxième fois, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Et il dit, oui, je t'aime. Avec un amour humain, mais je t'aime. Quand même. Et il lui donne une mission, paie mes brebis, parce que ce n'est pas encore fini avec toi, parce qu'il y a encore du travail avec toi. Et Dieu va faire des choses plus grandes qu'il n'en a fait jusqu'à maintenant. Paul le voit aussi comme un pacificateur dans Romains 5, verset 1, on l'a vu, celui qui donne la paix, l'unique fondement, il est le fondement de la foi sur lequel je veux bâtir ma vie. Il est l'agneau immolé qui a pris mes péchés à la croix, il est le libérateur, celui qui me libère de tout faux raisonnement. Il est le but suprême du combat de la vie, le but suprême du combat de la vie. Il y a un combat dans ma vie, mais si on me disait, si je croyais que ça n'a pas de sens, et je comprends qu'il y a des gens qui se suicident dans la vie, s'ils pensent que ça ne sert à rien, ils souffrent bêtement, et après c'est le néant, on comprend que les gens sont désespérés, mais heureusement que ce n'est pas vrai. Il y a un sens, la vie a un sens, il y a un sens évidemment. Dieu, il nous appelle à le suivre parce qu'il désire une chose, c'est que nous régnions avec lui. Nous soyons avec lui sur son trône. Nous puissions nous asseoir à la droite du Père. Et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons toute victoire. Il y a un sens dans cette vie. Glorifier Dieu au travers de nos vies. Il est le chef de l'Église, celui qui orchestre son Église pour l'avancement de son royaume. Il y a un leader et c'est le Christ. C'est lui le grand chef. Les autres sont des petits bergers, mais lui c'est le grand berger. C'est le souverain berger. C'est celui que nous devons suivre. Il est le Seigneur qui vient. Il revient bientôt chercher son Église. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Il est le seul souverain. Le seul souverain. 1 Timothée chapitre 6 verset 15, il est le juge de tous les hommes. Il dit, moi je vous juge pas, c'est ma parole qui jugera. Mais en fin de compte, on sait que l'Église
sera appelé à être jugé en premier avant le monde. Hein. C'est l'Église qui va passer devant le tribunal de Christ. Et chacun devra répondre de ses actions. Et c'est vrai que si nous avons demandé pardon pour nos fautes, qu'est-ce qui se passe? Nos fautes sont plongées dans l'océan de la grâce de Dieu. D'accord? Dieu pardonne nos péchés. Mais ce n'est pas un salut à bon marché. Ce n'est pas un salut à bon marché où « Oui, Seigneur, je te demandais pardon, c'est bon. » Non, non. Et, il fut un temps où des gens étaient dans l'angoisse pendant plusieurs jours, restaient dans l'église, pendant plusieurs jours, en se lamentant, en se repentant sincèrement. Mais quand ils sortaient de là, je vous assure qu'ils vivaient une vie de sanctification. Et ici, on se laisse aller à toutes les sauces, à regarder des films, n'importe quoi. Et les gens touchent un peu à n'importe quoi sur Internet. On ne réalise plus la sainteté du Dieu vivant. Et ça, c'est vraiment un dommage énorme causé à l'Église. L'Église doit se réveiller. Le réveil commence par l'Église. Dieu veut réveiller les consciences et veut baptiser l'Église d'un baptême de sainteté. Dieu veut sanctifier son peuple. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ce n'est pas une parole de 1980. C'est une parole de 2014. Dieu veut encore agir dans ce sens. Dieu veut sanctifier tous ceux qui s'approchent de lui. Il est le Rédempteur, Tite 2, verset 14. Et il est l'auteur de notre salut, Hébreux, chapitre 2, verset 10. Il est le grand souverain sacrificateur, Hébreux 4, 14. Il est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection, l'auteur de la foi. Qui mène notre foi à la perfection, Hébreux 12, verset 2, il est le Fils du Dieu vivant. Et c'est bien sûr, dans l'évangile de Matthieu, c'est Pierre qui a fait cette confession. Tu es le Fils du Dieu vivant. Et sur cette confession-là, je bâtirai mon Église avec tous ceux qui confessent la parole de Pierre. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant. Il est l'unique source de la vérité. Jean chapitre 6, verset 68. L'unique source de la vérité, il est « Je suis la vérité », dit Jésus. Et il n'y a pas d'autre source comme vérité. C'est lui. Il est le berger, le gardien des âmes. 1 Pierre, chapitre 2, verset 25. Il garde nos âmes en lui. Il est la porte des brebis, nous l'avons vu. Il est le témoin fidèle. Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il est avant l'histoire, après l'histoire, mais il est le début, la fin de toute chose. L'alpha et l'oméga, il est le lion de la tribu de Judas, Apocalypse 5, verset 5. Il est l'agneau immolé, on l'a vu, Apocalypse 17, verset 14. Il est la parole de Dieu, Apocalypse 19, verset 13. Il est la parole qui engendre la vie. Parce que c'est au travers de la parole que Dieu a créé le monde. Quand Dieu a dit que le monde existe, il a existé. À la parole de Dieu, les choses ont existé. Et à la parole de Dieu, Dieu donne la vie. À tous ceux qui croient, tous ceux qui reçoivent la parole, la vie est produite en eux. La vie est reçue en eux. La vie de Dieu se manifeste. La vie du ressuscité entre dans notre esprit et fait de nous des enfants de Dieu. Et c'est extraordinaire de savoir qu'il est la parole de Dieu et une parole vivante. Une parole vivante et puissante pour transformer les vies. Il est le roi des rois. Et le Seigneur des Seigneurs, Apocalypse, chapitre 19, verset 16. Le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, le maître de l'univers. Il est au-dessus de tout et il est le centre de tout. S'il est votre centre et s'il est au-dessus de vous, alors il est le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs pour vous. C'est important. En conclusion, tout est possible à celui qui croit en son nom, à ses noms. Tout est possible. Tout est possible à vous, peu importe votre demande. Son nom est suffisant pour satisfaire tous vos besoins. Il n'y a pas un seul besoin que Dieu ne veut rencontrer. Lorsque Moïse est rongé par le doute, l'inquiétude et l'insécurité de sa mission, Le Seigneur lui dit, je suis avec toi, je suis le grand je suis avec toi. Mon nom sera avec toi. Chaque jour, vous pouvez prier ce Dieu qui est le grand je suis. Le grand je suis qui est fidèle pour vous accompagner dans votre vie de tous les jours et répondre aux besoins et à vos demandes. Il est capable de le faire. J'ai tout ce dont j'ai besoin en Jésus-Christ. Tout. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons